الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنبدأ درسنا الثاني في تفصيل صفة الحج من بدايته إلى آخره. Donc on commence le deuxième cours concernant la description du Hajj du début à la fin, Inch'Allah Ta'ala. Donc la dernière fois, on avait vu rapidement, durant le cours dernier, donc on avait fait une petite introduction sur le support utilisé durant les cours. On avait parlé de quelques mérites du Hajj. On avait aussi vu qu'est-ce qu'un Hajj Mabrour. On avait aussi parlé de quatre points que le Cheikh avait cités sur lesquels le pèlerin doit accorder son attention. Et enfin, on a fini par citer les trois types de pèlerinage. Donc, on continue sur cela, Inch'Allah Ta'ala. Donc, on a dit qu'on a trois types de pèlerinage. C'est-à-dire que le pèlerin doit choisir un de ces types-là dès le début, avant de voyager. Donc, soit l'ifrad, qui est le fait d'avoir l'intention de faire le hajj seul, ou bien l'qiran, qui est le fait de faire le hajj et la umra ensemble, ou bien tamattu', qui est le fait de faire la umra dans un premier lieu. Et ensuite, de se désacraliser et entrer en état de sacralisation plus tard pour le hajj, comme on détaillera ça, Inch'Allah Ta'ala. Avant de continuer ce que le Cheikh a dit, Cheikh Sulaiman wafaqahullah, dans la conférence en question, on va parler rapidement des mahzourat l'ihram, de ce qui est interdit de faire en état de sacralisation. On va parler rapidement, parce qu'il n'en a pas parlé dans cette conférence-là, on va citer rapidement, en se basant sur le livre dont je vous ai parlé, Hidayatul Salik, d'accord, sur al-mahdourat al-ihram, les interdits de l'état de sacralisation, sans rentrer dans les détails. Awalan, akhdhu sha'ri ala al-rijal wa al-nisa. Le fait de prendre de ses poils, c'est-à-dire de ses cheveux, les arracher ou bien de les couper, les cheveux ou bien la barbe ou bien les poils, n'importe où sur le corps. D'accord ? Et on précise ici que les savants disent le fait qu'un poil tombe involontairement, il n'y a aucun problème. Si je fais mes ablutions et qu'en essuyant sur ma barbe, il y a un poil qui tombe parce qu'il est faible, etc., il n'y a pas de problème. D'accord ? Il y en a qui en font un peu trop et qui disent que dans ce cas-là, il a une fidia, non ? Ce n'était pas volontaire. Donc il n'y a aucun souci si ce n'est pas fait exprès. Mais il faut quand même faire attention. Par exemple, pour les frères qui ont la mauvaise habitude de s'arracher les poils de la barbe à chaque fois, il faut essayer d'arrêter en état de sacralisation. D'accord, etc. Deuxième interdit, taqlim al-adhfar lil-rijal wa an-nisa. Le fait de prendre de ses ongles, de couper ses ongles. D'accord, soit les ongles des pieds ou bien les ongles des mains. Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Tayyib. Maintenant, si par exemple, j'ai un ongle cassé et qui me fait très mal, et que c'est soit je l'enlève, soit je vais souffrir. Dans ce cas-là, les savants disent que c'est autorisé. D'accord ? Mais la base, c'est que c'est interdit de prendre des ongles. Troisième interdit, at-tibu. Taba'an lir-rijal wa an-nisa. Le fait de se parfumer. Ou bien de mettre quelque chose de parfumé, comme une crème parfumée ou une pommade parfumée. D'accord, ça c'est interdit. Pour les hommes, on a le droit, comme on le verra tout à l'heure, Inch'Allah, on a le droit de se parfumer, c'est même recommandé, juste avant de se mettre en état de sacralisation, mais se parfumer le corps et non l'habit. D'accord ? Se parfumer le corps et non l'habit, c'est-à-dire mettre du parfum sur le corps et non sur les habits. D'accord ? Quatrième interdit, tartiyatul muhrim. Tartiyatul muhrim ra'sahu wa wajhahu bi mulasiq. Le fait que le pèlerin se couvre la tête ou bien le visage avec quelque chose qui colle à la peau ou bien au corps, à la tête. D'accord ? Par exemple, l'homme n'a pas le droit de mettre une chochia ou bien de mettre une casquette, etc. Mais par exemple, il a le droit d'avoir un parasol pour se couvrir des rayons du soleil. Ça, il n'y a pas de problème. Il a le droit dans la voiture d'être couvert par le toit de la voiture, il n'y a aucun souci. Le fait de se couvrir avec un habit mais en l'élevant au-dessus de la tête, il n'y a pas de problème du moment que ça colle pas à la tête. D'accord? Ce qui est interdit, c'est le molar, c'est-à-dire, donc pour les hommes, bien sûr, quand on parle de la tête. Quant au visage, comme c'est connu, c'est interdit pour les hommes. Et pour les femmes, elles ne doivent pas mettre de niqab. Et non, ça ne veut pas dire qu'elles ne doivent pas se couvrir le visage. La femme se couvre le visage en présence d'hommes, d'accord, étrangers, non avec un niqab. C'est-à-dire, faut pas que ça soit quelque chose qui s'attache à la tête et qui laisse les yeux apparents. D'accord? C'est ça qui est interdit. Quant au fait qu'elle pose un voile sur sa tête pour couvrir son visage en présence d'hommes étrangers, il n'y a pas de problème. D'accord? L'homme, par contre, il n'a pas le droit de se couvrir le visage. Kadhalik, l'interdit numéro 5, لبس الذكر المخيط على كله كالقميص أو بعضه كالسراويل. Le fait que l'homme, encore une fois là, c'est que pour les hommes, mette des habits machit. Quand on parle d'un habit qui est machit, ça veut dire quoi? Ça veut dire un habit qui dessine les formes du corps. Donc je n'ai pas le droit de mettre une chemise ou un kamis, car ça dessine la forme des bras. Je n'ai pas le droit de mettre un sarouel ou bien un sous-vêtement par exemple, parce que ça dessine les formes des jambes, etc. C'est ça quand on parle de machit. Ce n'est pas le fait qu'il n'y ait pas de fil. Il y en a qui ont mal compris, qui pensent que le machit, c'est qu'il n'y ait pas de couture. Toutes les serviettes ou bien tous les ihrams qu'on met, en général, il y a de la couture dedans. Il y a des fils. D'accord? Ce n'est pas ça qui est voulu. Ce qui est voulu, c'est que ça ne dessine pas les formes du corps. Donc, on met juste deux draps, entre guillemets, un en bas et un sur les épaules. Tout simplement. De toute façon, tout le monde met le même habit et c'est un habit qui est connu. D'accord? C'est un habit qui est connu. Mais il faut faire attention. Par exemple, on a certains ihrams qui se vendent. Par exemple, pour le izar, c'est-à-dire le pan qui se met pour couvrir la partie bas de son corps. Il y a des izars qui ont un élastique et qui se mettent comme une jupe, exactement comme une jupe. Ça, c'est interdit. Et il y a des pèlerins qui mettent ça. Pensant que c'est une facilité, oui, c'est une facilité, mais c'est interdit là, les makhit. Là, ça dessine clairement la forme du corps. D'accord? Le fait qu'on mette une ceinture pour bien tenir le izar et une ceinture à poche pour ranger ses affaires dedans, il n'y a pas de problème, inshallah ta'ala. Comme l'a dit Cheikh Sulaiman ici. Mais le fait de mettre un izar avec un élastique imprégné à l'intérieur et qui se met comme une jupe, ça c'est interdit. D'accord? Ça c'est interdit. Donc, لبس الذكر المخيط. Donc, le machit est interdit pour les hommes. Le fait de mettre des habits qui dessinent les parties du corps. La femme aimait ses habits comme d'habitude. Du moment que ce n'est pas un habit qui est une zina, comme on le verra juste après, inshallah ta'ala. En ce qui concerne les chaussures pour les hommes, faut pas que ce soit des chaussures qui couvrent les chevilles. Et de même, faut pas que ce soit des chaussures fermées qui dessinent la forme du pied. Donc, pour résumer, faut que ce soit des claquettes, d'accord, si on peut dire ça comme ça. Les sandales, par exemple, qui s'attachent par derrière et qui sont ouvertes devant, les savants ont divergé. Et j'avais déjà demandé à Cheikh Sulaiman al-Ruhayli wa faqahullah récemment concernant ces chaussures-là. Donc, le Cheikh était d'avis que c'était pas interdit, mais que c'était à éviter, parce qu'il y a une grande divergence dessus. Donc, vaut mieux s'éloigner de cette divergence-là et ne pas mettre ce type de chaussures. Donc le mieux, c'est de mettre juste des claquettes, c'est-à-dire qui ne sont ouvertes derrière et devant. D'accord? Non. Donc pour les hommes, quant aux femmes, elles mettent des chaussures normales, il n'y a aucun problème. Ensuite, sixième interdit, on parle toujours des habits, j'ai oublié une chose, la femme, elle n'a pas le droit de couvrir aussi ses mains. Elle n'a pas le droit de couvrir ses mains, c'est-à-dire elle n'a pas le droit de mettre de gants. Quant au fait de couvrir ses mains avec sa abaya par exemple, il n'y a pas de mal. Mais le fait de mettre des gants, c'est interdit. Sixième interdit de l'ihram, c'est-à-dire l'interdit en état de sacralisation, le fait de chasser une bête terrestre. Bon, je ne pense pas qu'il y a l'un d'entre vous qui va partir à la chasse pendant le hajj, mais on le cite car les savants le citent. Donc c'est interdit de chasser une bête en état de sacralisation. Septième interdit, عقد النكاح سواء كان العاقد زوجا أو وليا وكذا الخطبة. Le fait de conclure un acte de mariage, un contrat de mariage, que ça soit le wali, c'est-à-dire le tuteur de la femme, ou bien le prétendant, d'accord, et aussi al-khitba qui est interdit, le fait de demander quelqu'un en mariage aussi. Donc tout ça, c'est interdit en état de sacralisation. Le huitième et neuvième interdit, on peut le citer en un, le fait d'avoir des rapports charnels. Et aussi ce qu'on appelle mubashara, le fait d'avoir des contacts directs avec son épouse. Naam. Donc voilà les interdits de manière générale, sans rentrer dans les détails. Si on veut des détails, ça nous prendra énormément de temps. Là, dans le livre, juste les interdits que je viens de citer, ça fait plus de 100 pages. Si on veut rentrer dans les moindres détails, ce qui est autorisé, ce qui est interdit, juste les interdits que je viens de citer, mais en détail. Donc nous, on se contentera de ça parce que le but, c'est juste de faire un résumé et aller à l'essentiel et de pouvoir terminer, comme on l'a dit, avant que le Hajj commence, Inch'Allah Ta'ala. Donc voilà en ce qui concerne les interdits durant l'état de sacralisation. Maintenant, on va passer directement à ce que le Cheikh a dit dans la conférence, Inch'Allah Ta'ala. فقال الشيخ سليمان الرحيل وفقه الله فإذا وصل المسلم إلى الميقات فإنه يستحب للرجل أن يتجرد من لباسه المعتاد لإهلاله. Donc une fois que le musulman, une fois que la personne, le pèlerin, arrive au miqat. Donc le miqat, c'est le lieu à partir duquel on se met en état de sacralisation et qu'on émet l'intention d'entrer en état de sacralisation. Celui qui passe par Médine d'abord, son miqat, c'est Dhul-Hulayfa. Donc c'est ça fait partie de la ville aujourd'hui. Donc c'est pas très loin de la mosquée de Khouat Sallam, c'est à une dizaine de kilomètres à peu près. D'accord? Donc celui qui passe par Médine passera par Dhul-Hulayfa et se mettra en état de sacralisation là-bas avant de partir et de prendre la route pour Mecca. D'accord? Quant à celui qui vient directement à Jeddah pour aller à la Mecque, il se mettra en état de sacralisation dans l'avion. Donc faudra qu'il mette ses habits, en parlant de l'homme, faudra qu'il mette ses habits avant de monter dans l'avion, car c'est très compliqué dans l'avion, il n'y a pas assez d'espace pour ça. Donc avant de monter dans l'avion, et une fois que l'avion sera au-dessus du miqat, ça sera dit, d'accord, et au moment où le pilote dira que vous êtes au-dessus du miqat, c'est là que vous prononcerez, comme on le verra, l'entrée en état de sacralisation. D'accord? Naam. Donc il est préférable pour l'homme, une fois qu'il est au miqat, de changer ses habits et de mettre les habits de l'état de sacralisation. Donc que ça soit fait au miqat ou avant le miqat, il n'y a pas de problème, le fait de mettre les habits. C'est préférable de les mettre au miqat, mais si c'est difficile ou il y a trop de monde, etc., et c'est en général le cas, il n'y a pas de mal, par exemple, pour ceux qui sont à Médine, de les mettre dans l'hôtel. Il n'y a aucun souci à ça. Le mieux, c'est de les mettre dans le miqat, na'am, walakin, il n'y a aucun souci de les mettre à l'hôtel, surtout pour éviter une difficulté. Ça peut même être meilleur si c'est pour éviter une difficulté parce qu'il y a trop de monde, par exemple. Quant à la femme, elle met ce qu'elle veut comme habit. Donc, et la femme, si elle veut garder les habits qu'elle avait, sans les changer, il n'y a pas de problème. D'accord? Du moment que cet habit-là n'est pas un embellissement en soi-même ou un ornement en soi-même. D'accord? ثم قال حفظه الله ويسن لمن أراد الإحرام أن يغتسل من أجل الإحرام. Donc il est recommandé pour celui qui veut se mettre en état de sacralisation de faire le ghusl. D'accord? وهذا غسل مشروع. Donc le fait de faire les grandes ablutions, ou bien le lavage, ou bien le bain rituel. D'accord? Ceci est légiféré. Le fait de faire le ghusl pour l'état de sacralisation, c'est légiféré et recommandé, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Donc là, le cheikh cite un hadith quand Asma bint Umays radiyallahu anha a accouché, d'accord, قال لها النبي صلى الله عليه وسلم, خواتي عسلم lui a dit اغتسلي, lave-toi, مع أنها نفساء, alors qu'elle était en état de lochi, c'est-à-dire qu'elle était en état d'impureté, malgré cela, il lui a dit de se laver. Ça sert à quoi de se laver son état d'impureté? Donc ça prouve que ce rosle-là, c'est pour l'état de sacralisation. Ça prouve que ce rosle-là, c'est pour l'état de sacralisation. Donc ça prouve que c'est légiféré. وذكر الفقهاء أنه يستحب للإنسان إذا أراد الإحرام أن يأخذ من شعر شاربه وينتف شعر إبطيه ويحلق شعر العانة إن كان محتاجا لهذا حتى لا يحتاج إلى هذا حال كونه محرما. Donc les فقهاء, donc les savants du fiqh, de la jurisprudence, ont dit qu'il était recommandé pour la personne qui veut se mettre en état de sacralisation, de se couper ou bien les poils de la moustache, donc pour les hommes. D'accord? Donc il est recommandé de se couper, pas de raser, mais de raccourcir sa moustache. Et le fait de se raser les poils des aisselles et du pubis aussi, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. C'est recommandé si la personne en a besoin. حتى لا يحتاج إلى هذا حال كونه محرما, pour que une fois qu'il est en état de sacralisation, afwan, il n'a pas besoin de cela car il aura déjà tout enlevé et il sera tranquille. D'accord? Donc le cheikh dit juste après, وإن كان هذا لم يرد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. Ceci n'a pas été rapporté de manière authentique du prophète عليه الصلاة والسلام qu'il faut faire ça avant d'entrer en état de sacralisation. لكن المقصود به صحيح, mais l'objectif de cela est authentique. فهو مستحب لمن كان محتاجا لهذا. Donc c'est recommandé pour la personne qui en a besoin. Car une fois qu'elle entre en état de sacralisation, cela devient interdit. D'accord? Cela devient interdit. Pareil pour le fait de se couper les ongles. Si elle a des grands ongles, vaut mieux les couper avant pour ne pas tomber dans la gêne d'avoir un ongle cassé ou autre. Par exemple. D'accord? Naam. ويستحب للرجل أن يتطيب عند إحرامه في لحيته ويتطيب في رأسه بأجود ما يجد من الطيب. Il est recommandé à l'homme de se parfumer juste avant d'entrer en état de sacralisation, de se parfumer la barbe, la tête et ainsi que son corps. وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Cela fait partie de la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم. D'accord. أما المرأة, quant à la femme, donc c'est connu, لا يجوز لها أن تطيب بطيب إنه ريح ما دام أنها ستمر بالرجال الأجانب. Quant à la femme, c'est connu, donc elle ne se parfume pas tant qu'elle sait qu'elle va passer près d'hommes étrangers. نعم. Donc l'homme peut le faire avant d'entrer en état de sacralisation. Une fois qu'elle entre en état de sacralisation, ça devient interdit comme on l'a vu. D'accord. Et elle a le droit de se parfumer le corps et non l'habit. Si elle a mis ses habits de l'ihram, elle peut se parfumer la barbe, la tête, par exemple, mais pas l'habit. C'est interdit de se parfumer l'habit. Naam. Fa idha fa'ala al-muslimu dhalika, une fois que la personne elle a fait cela, d'accord, sunna lahu an yakuna ihramuhu ba'da salatin mashru'ah. Il lui est recommandé de se mettre en état de sacralisation après une prière légiférée. Ya ikhwa, on va citer beaucoup de choses, c'est recommandé. Ça, c'est pour citer le hajj parfait, si on peut. Des fois, il y a beaucoup de choses qu'on va citer, on ne peut pas le faire. À cause du monde, à cause de l'état dans lequel on sera, etc. Mais la personne, tant qu'elle a l'intention de le faire, si elle peut le faire, c'est comme si elle l'avait fait. D'accord? C'est important de souligner cela. Par exemple, là, le cheikh, il dit qu'il est recommandé et il est légiféré de se mettre en état de sacralisation après une prière légiférée. كأن يكون إحرامه بعد صلاة الفريضة. Comme le fait que son état de sacralisation se fasse après une prière obligatoire, ou bien après le witr, si c'est après l'Isha, ou bien après les deux rak'at qu'on effectue après avoir effectué les ablutions, etc. D'accord? Mais je vous donne un exemple. La personne, elle passe au-dessus du miqat, ce n'est pas l'heure d'une prière. On va pas dire au guide, par exemple, ce qu'on peut attendre jusqu'à ce soit l'heure de la prière, alors qu'il reste 2 heures, par exemple, juste pour faire ça. Non. Ça va mettre dans la gêne non seulement vous-même et toutes les personnes qui sont avec vous. D'accord? Si on peut, tant mieux. Si on peut pas ou qu'il y a une gêne ou une difficulté, alhamdulillah. La religion n'est pas venue avec des difficultés, au contraire. Elle est venue avec la facilité et avec le fait de repousser la difficulté. فجاءت بالتيسير وباجتناب ما كان عسيرا. D'accord ? فعلى كل حال, si on peut se mettre en état de sacralisation après une prière, si par exemple je passe par le miqat et c'est l'heure de dhuhr ou bien l'heure de l'asr, tant mieux. Ou bien que j'ai le temps de faire deux unités de prière légiférées, car il n'y a pas d'unité de prière légiférée pour l'ihram. Il y a beaucoup de personnes, ils veulent faire deux raka'at pour l'ihram. Non, ça c'est pas légiféré. Je ne prie pas deux raka'at pour mon état de sacralisation. Si c'est le moment de faire une prière qui est déjà légiférée comme une prière obligatoire, ou bien le witr, ou bien que j'ai fait mes ablutions par exemple, et c'est légiféré de prier deux raka'at après les ablutions par exemple, là oui, je peux, je prie, je me mets en état de sacralisation. Mais je ne prie pas spécialement deux unités de prière pour l'état de sacralisation. D'accord ? Il a été rapporté, ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة الظهر. بعد أن صلى الظهر عليه الصلاة والسلام أحرم. Et tout cela parce que le prophète صلى الله عليه وسلم, il a été rapporté qu'il s'est mis en état de sacralisation après la prière de الظهر. فإذا صلى المسلم صلاة مشروعة, une fois que le pèlerin a pris une prière obligatoire et qu'il s'est mis en état de sacralisation, c'est une bonne chose. Et il a une récompense pour cela. D'accord ? Et là, pour se mettre en état de sacralisation, il doit prononcer le type de hajj qu'il va faire. Si il va être mutamatti', c'est-à-dire qu'il va faire d'abord une umrah, puis se désacraliser, puis faire le hajj, alors il dira « Labbayk Allahumma umrah ». Il dira, quand il est au miqat, « Labbayk Allahumma umrah ». Et c'est recommandé de dire ça une fois qu'on est sur notre monture et que la monture va partir et va quitter le miqat. D'accord ? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il a fait. Et ensuite, il a reprononcé une deuxième fois cela, une fois qu'il a quitté le miqat et qu'il était à l'endroit le plus élevé après le miqat. Comme on le citera, inshallah ta'ala. Ala kulli hal, pour celui qui va être mutamatti', c'est-à-dire qu'il va faire d'abord la umrah et ensuite le hajj, il dit la bayk Allahumma umra. Pour celui qui a décidé d'être qarin, c'est-à-dire qu'il va réunir entre le hajj et la umra en une fois, il dit la bayk Allahumma umra umratan fi hajja. La bayk Allahumma umra fi hajja. Et s'il veut, il a décidé d'être mufrid, c'est-à-dire de faire le hajj seul, il dira la bayk Allahumma hajja. D'accord ? La bayk Allahumma hajja. Donc ça, il le dit une fois que, par exemple, il monte s'il passe par le miqat en car, une fois qu'il est dans le car, ou bien s'il est dans l'avion, de toute façon, c'est quand il est dans l'avion, il va pas s'arrêter l'avion. Il dit ça, d'accord. Une fois qu'il est dans le car, par exemple, et que il est assis, il dit cela. Thumma yasir. Une fois que le car a démarré, par exemple, فَإِذَا أَوْشَكَ عَلَى مُفَارَقَةِ مَكَانِ الْمِيقَاتِ et qu'il est presque à la fin du miqat et qu'il est en train de quitter le miqat, alors il est recommandé pour lui de répéter encore ce qu'il a dit précédemment. Car c'est ce qu'a fait le prophète alayhi salatu wassalam. Taïb, j'ai oublié de le redire une deuxième fois, est-ce que c'est grave? Non, il n'y a aucun problème. Je vous le répète, ce qu'on dit, quand je dis il est recommandé, c'est des choses qui rajoutent en récompense pour être le plus proche de ce qu'a fait le prophète alayhi salam. Si on l'oublie ou qu'il y a une difficulté dedans, il n'y a aucun mal dans le fait de le délaisser. Naam. Donc, une fois qu'il est proche du fait de quitter le miqat, il répète ce qu'il a dit, c'est-à-dire « Labbayk Allahumma umra » ou bien « Umra fi hajja » ou bien « Hajja » selon le type de hajj qu'il aura décidé de faire. Taïm. On va sauter quelque chose, ça ne reste pas la peine. Taïm. Ensuite, après avoir dit ça, il multiplie la talbiya qui est très connue. « Labbayk Allahumma labbayk » لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Donc il répète cette talbiya. Il est recommandé de la répéter un maximum jusqu'à Mecca, jusqu'à arriver à Mecca. D'accord. Donc c'est cette talbiya là que le prophète sallam a répété énormément. D'accord. Et certes, يعني وكان يزيد أحيانا في تلبيته. Il rajoutait parfois لبيك إله الحق لبيك إله الحق. Parfois, le prophète a rajouté ça, mais la base, c'est la talbiya qu'on a citée et qui est connue de tous. La bayk Allahumma la bayk, la bayk la sharika laka la bayk, inna alhamda wa ni'mata laka wal mulka la sharika laka. C'est ça la base. Ensuite, Le cheikh dit que le prophète sallam des fois rajoutait labbayka ilaha al-haq labbayka ilaha al-haq, et des fois il rajoutait le jour de Arafah, quand il était à Arafah, il rajoutait avec la talbiya innamal khayru khayru al-akhirah innamal khayru khayru al-akhirah. Tout cela a été rapporté du prophète sallam de manière authentique, mais la talbiya qu'il répétait un maximum, c'est la première qu'on a citée. ويجوز للمسلم أن يزيد في تلبيته الثناء على الله عز وجل. Il est autorisé aux musulmans de rajouter dans sa talbiya les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, il dit لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل. Cela a été rapporté des compagnons رضي الله عنهم. Et le prophète sallam était avec eux et il ne leur a rien dit. Il les a laissés, ça veut dire que c'est autorisé. D'accord. Le cheikh dit ensuite فإن قال لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغبة إليك والعمل إليك والعمل فحسن. Le fait qu'il dise cela, ce que je viens de dire, c'est une bonne chose aussi, car ça a été rapporté de Omar رضي الله عنه qu'il disait cela avec la talbiya, et Ibn Omar aussi le disait avec la talbiya. Donc tout ceci est autorisé, tout ceci est autorisé. والخير في لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو أكمل. Et le mieux c'est de multiplier un maximum la première talbiya. Et de temps en temps, on peut rajouter ce qu'on a dit en plus. D'accord ? Comme le baika ilaha al-haq et le fait de rajouter le jour de Arafah, innamal khayru khayru al-akhirah. Kadhalik, il est recommandé de mélanger la talbiya de temps en temps avec at-tahlil, le fait de dire la ilaha illallah. Le fait de dire la ilaha إلا الله فإن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم صلى في برشيد السنة صلى الله عليه وسلم والسنة للرجال أن يرفع أصواتهم بالتلبية ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. La sunna pour les hommes c'est de dire la talbiya à voix haute autant qu'ils le peuvent. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصرخون بالتلبية صراخا. Les compagnons criaient avec la talbiya. Ils criaient en disant la talbiya. Et c'est rapporté qu'il n'arrivait à un endroit qu'on appelle Ar-Rawha, il n'arrivait pas à cet endroit-là sans que leur voix, sans qu'il n'ait plus de voix. وَقَدْ بُحَّتْ حُلُوقُهُمْ مِنْ رَفْعِ مَصْوَاتِهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ. Ils avaient la voix cassée déjà. Bon, ça ne veut pas dire que... Donc c'est recommandé. On essaie de faire un maximum à voix haute et de la multiplier un maximum. Mais n'oubliez pas que vous êtes en voyage et qu'il y a beaucoup de choses qui vous attendent. Si c'est pour donner plus que ce qu'on peut, et qu'à la fin on arrive à Mecca, on n'arrive pas à faire le tawaf, on n'a plus d'énergie, non. D'accord ? Chacun selon sa capacité, chacun se connaît. Celui qui a la force de faire à voix haute, bien comme il faut très haut, et de la multiplier un maximum tout au long du voyage, alhamdoulilah qu'il le fasse. Celui qui voit qu'il ne peut pas, que ça va l'affaiblir, et qu'il ne pourra pas finir sa umrah par exemple, ou son hajj comme il faut, qu'il s'abstienne. D'accord ? Tayyib. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يأمر أصحابه أن يرفع أصواتهم بالتلبية. Et cela car Jibril est venu voir le prophète صلى الله عليه وسلم, il lui a ordonné d'ordonner ses compagnons de lever la voix avec en disant la تلبية. ولأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الحج العج والثج. Et c'est rapporté que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que le meilleur des pèlerinages c'est ce qu'on appelle al-ajju wa thaj. Et al-ajju, ça veut dire quoi? C'est le fait de lever sa voix avec la talbiya. De lever sa voix avec la talbiya. Wa qad thabata 'an nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu ma min mulabbin yulabbi illa labba ma'an yaminihi wa 'an shimalihi. Ça a été rapporté aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam que il n'y a pas un pèlerin qui dit la talbiya sans que tout ce qui se trouve à sa droite et à sa gauche, comme rocher, comme pierre, comme arbre, etc., ne répète la talbiya après lui. Durant tout son voyage, à chaque fois qu'il répète la talbiya, tout ce qui se trouve à sa droite et à sa gauche, il répète la talbiya après lui. Et ça a été rapporté de manière authentique, prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on y croit, et même si on n'entend pas les pierres et les arbres, etc., parler entre guillemets. ولكن ما دام انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحيح بلا شك. Il n'y a aucun doute sur son authenticité. Et le cheikh dit ensuite وبهذا يؤجر لانه سن لهم سنه حسنه. Et à chaque fois que quelque chose parmi ces pierres là ou ces arbres etc. répète la talbiya, il est récompensé lui aussi, car c'est lui qui a instauré cette sunna à ses pierres et à ses arbres, de répéter après lui. D'accord ? فَيَنَالُ أَجْرَ تَلْبِيَةِ هَؤُلَاءِ جَمِيعًا. Donc il a la récompense de la telbiya de toutes ces choses-là qu'il répète après lui. D'accord ? فَلِهَذَا كُلَّمَا رَفَعْتَ صَوْتَكَ بِالتَّلْبِيَةِ كُلَّمَا زَادَ أَجْرُكَ فِي حَجِّكَ. Plus tu lèveras ta voix par la telbiya, plus ta récompense sera grande dans ton pèlerinage. Et ça, bien sûr, c'est pour les hommes. Les femmes ne lèvent pas leur voix avec la telbiya. Elles font la telbiya à voix basse. D'accord ? Elles font la telbiya à voix basse tant qu'il y a des hommes. Si par contre elles sont qu'entre femmes, elles peuvent lever la voix tant qu'il n'y a pas d'hommes qui les entendent. Non. Ensuite, elle wusul ila Mecca, l'arrivée à Mecca. Donc, yastamiru al-hajj mulabbiyan hatta idha wasala Mecca. Donc, on répète la telbiya jusqu'à arriver à Mecca. D'accord ? Une fois qu'on voit la Mecque, qu'on voit les constructions de Mecca devant nous, on arrête de faire la telbiya. Soit les constructions de la Mecque ou bien la Kaaba, les savants ont divergé. D'accord ? Les savants ont divergé. Et Cheikh Suleiman, il nous dit, فَذَاكَ شَيْءٌ فَإِنَّ الْأَمْرَيْنَ عَفْوًا قَدْ ثَبَتَا عَنْ صَحَابَةِ رَسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Les deux ont été rapportés des compagnons, radiyallahu anhum. Soit on s'arrête à l'entrée de la Mecque, soit on s'arrête à la vue de la Kaaba. Et ça, peu importe qu'on soit mutamattia ou bien mufarid ou bien qaren, c'est la même chose pour l'instant. Pour l'instant, on n'a pas de différence. D'accord ? يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ الْجَمِيعَ. طيب. Ensuite, après cela, قال الشيخ وفقه الله لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبى وهو يسعى أو يطوف. Il n'a pas été rapporté du prophète صلى الله عليه وسلم qu'il faisait la talbiya pendant le sa'i ou bien le tawaf à l'arrivée. C'est pour ça que tout le monde arrête, que ce soit le mutamatti' ou bien le qarin, ou bien le mufrid. Ou bien le mufrid. Juste, la seule différence, c'est que celui qui est qarin, ou bien qui est mufrid, d'accord, celui qui est qarin, c'est-à-dire qui a décidé de faire la umrah et le hajj ensemble, ou bien mufrid qui a décidé de faire que le hajj, donc pour eux deux, le tawaf qu'ils sont en train de faire, c'est le tawaf al-qudum. C'est le tawaf d'arrivée. Pour le mutamattir, le tawaf qu'il est en train de faire, c'est le tawaf de la umrah. Ok ? La différence, c'est que le mufrid et le qarin, une fois qu'il a fini le sa'i, et qu'il a fini le tawaf et le sa'i afwan, il continue la talbiya. Il continue la talbiya. Quant au mufrid, quant au mutamattir, une fois qu'il a fini le sa'i, lui, il va se désacraliser. Donc il va se couper les cheveux et sortir de l'état de sacralisation, donc il ne continue pas la talbiya. Il continuera le 8e jour de Dhul-Hijjah quand il ira à Minan, comme on le verra, inshallah ta'ala. D'accord ? Donc le mutamatti', lui, il arrête la talbiya et reprendra le 8e jour. Le qarin et le mufrid arrêtent la talbiya pendant le tawaf et le sa'i, et après le sa'i, ils reprennent la talbiya. Ils reprennent la talbiya, na'am. Donc, on entre à la Mecque par l'endroit le plus simple. Ça, de toute façon, tout le monde sera dans un bus, dans un car, en général avec un groupe. Donc, ça, c'est pas vous qui décidez par où vous rentrez. D'accord ? Donc, on va passer ça pour gagner du temps. Donc, le cheikh nous dit c'est quoi l'endroit, quel est l'endroit par lequel il est préféré d'entrer. Amka, à la colline, c'est l'endroit le plus simple pour la personne. Non. Donc une fois arrivé à la Mecque, devant Masjid al-Haram, donc à la colline, la personne va à son hôtel, elle pose ses affaires, etc. Si elle veut se redoucher, elle peut, mais sans utiliser de parfum, donc pas de savon parfumé, etc. Faire attention, ne pas s'arracher les poils, les ongles, faut pas oublier ça. Le fait de mettre que de l'eau, il n'y a pas de problème. Ou bien un savon qui n'a pas d'odeur, non parfumé aussi, il n'y a pas de souci. À la colline, celui qui veut. D'accord ? Celui qui veut. Sinon, on pose nos affaires et on se dirige vers le Masjid al-Haram pour faire notre tawaf. Une fois qu'on arrive devant la mosquée, on entre avec le pied droit comme toutes les autres mosquées. D'accord ? فندخل ونقدم رجلنا اليمنى ونقول, et on dit أعوذ بالله العظيم. Donc la dua, l'invocation qui est connue pour entrer dans n'importe quelle mosquée, que ce soit celle de la Mecque ou une autre. Ceux qui la connaissent, ils la connaissent. Ceux qui la connaissent pas, ils essayent de l'apprendre ou bien ils la lisent. On la trouve partout. أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. Ou bien la deuxième qui est rapportée du Prophète sallam, Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah, Allahumma iftah li abwab rahmatik. Et le cheikh il nous dit ici wa in jama'a baynahuma fa hasan. Et si la personne veut réunir entre les deux, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Donc le cheikh il dit c'est la vie le plus juste pour lui dans le fait qu'il est autorisé de réunir entre les invocations qui sont rapportées pour une chose. Fala ba'sa min al-jam'i baynahuma. D'accord? Naam. Donc il entre dans la mosquée. Est-ce qu'il prie les deux raka'at tahiyyat al-masjid? La yushra'u lahu an yusalli raka'atayn tahiyyat al-masjid illa idha kana mut'aban wa arada an yajlis qabla an yashra'a fi at-tawaf. Fa innahu yusalli raka'atayn li'umum qawli Nabi sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atayn. Donc le cheikh nous dit ici, on ne prie pas les deux raka'at d'entrer à la mosquée. On commence le tawaf directement. On commence le tawaf directement. Sauf une personne qui est fatiguée et qui veut d'abord s'asseoir et se reposer un peu, alors dans ce cas-là, on lui dit, prie deux raka'at de tahiyyat al-masjid, et ensuite assis-toi. D'accord? Dans ce cas-là. Tayyib. Amma idha kana la yuridu al-julus, fa yabda bit-tawaf. Yabda bit-tawaf. La sunna, il commence directement par le tawaf. Naam. Donc, qu'il soit qarin ou bien mutamatti' ou mufrid, là, il va faire la même chose. Il va faire le tawaf. Fa innahu yattabi'u bi an yukhrija katifahu al-ayman ويجعل رداءه من أسفل يده اليمنى ويرمي أطراف الرداء على كتفه الأيسر. Donc pour les hommes, juste avant de commencer le tawaf, faut se découvrir l'épaule droite, ce qu'on appelle l'ittiba'. Ce qu'on appelle l'ittiba'. Donc on prend le pagne, le côté droit, on le passe en dessous de l'aisselle droite pour le rejeter sur l'épaule gauche. Pour le rejeter sur l'épaule gauche, et donc pour justement découvrir l'épaule droite. L'essentiel, c'est de découvrir l'épaule droite. فَأَمَّا الْمُتَمَتِّعُ الْمُعْتَمِرُ فَيَطُوفُ طَوَافِ الْعُمْرَ وَهُوَ رُكْنٌ. Celui qui est mutamatti', son tawaf là qu'il est en train de faire, c'est le tawaf de la umra et c'est un pilier. C'est un pilier de son hajj, c'est un pilier de sa umra. D'accord? وَأَمَّا الْمُفْرِدُ وَالْقَارِنُ فَيَطُوفُ طَوَافِ الْقُدُومِ وَهُوَ السُنَّةُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ عِنْدَ جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ. Quant au mufrid et au qarin, le tawaf qu'ils sont en train de faire, c'est tawaf al-qudum et c'est une sunna. Ce n'est pas un pilier ou une obligation. C'est une sunna chez la majorité des savants et c'est une obligation chez les malikiyya, chez l'école de l'imam Malik rahimahullah. D'accord? Wa idha ra'a al-bayt lam yarid 'an Nabi sallam fi hadha fi'lun wa la qawl. Lakin thabata 'an Ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu kana idha ra'a al-bayt rafa'a yadayhi رضي الله عنهما هذا صحيح ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما وثبت عن عمر أيضا أنه كان يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. Donc est-ce qu'on doit lever les mains et invoquer au moment de voir la Kaaba? Ça n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ça a été rapporté de manière authentique d'Ibn Abbas رضي الله عنهما, et ça a été rapporté aussi de Umar رضي الله عنهما, que quand il voyait la Kaaba à l'entrée dans la mosquée la première fois qu'on rentre, donc il levait les mains pour dire, et il disait la dua Allahumma antas salam wa minkas salam fa hayyina rabbana bis salam. Donc la personne, si elle veut le faire, c'est une bonne chose, car ça a été rapporté des compagnons qu'Allah les agrée. Et s'il le délaisse, c'est aussi une bonne chose, car ça n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il le fasse ou pas, les deux sont une bonne chose inshallah ta'ala. فإذا أراد أن يطوف فإن يطوف فإن السنة له إذا أتى الحجر الأسود أن يقبله. Donc une fois qu'on commence le tawaf, la sunna c'est d'embrasser la pierre noire et de dire Allahu Akbar. Et c'est rapporté qu'Ibn Omar, lui, il disait Bismillah Allahu Akbar. C'est rapporté qu'Ibn Omar disait Bismillah Allahu Akbar. D'accord? Donc si la personne, il lui est facilité d'embrasser la pierre noire, et en général c'est pas le cas, vous savez très bien que si c'est pour pousser ses frères, pour les frapper, pour les pousser, pour les bousculer, c'est pas la peine. C'est pas la peine. D'accord? Et c'est le cas en général, à 99,99% des cas. Et pendant le hajj, encore plus. D'accord? À la colline, on généralise. Si c'est facilité, alors il est recommandé de l'embrasser. Si ce n'est pas facilité de l'embrasser, il est recommandé de la toucher avec sa main, puis d'embrasser sa main. Si c'est pas si ça aussi c'est pas facilité, il est recommandé de la toucher avec quelque chose, par exemple un bâton qu'on a, on touche avec le bâton et ensuite on embrasse le bâton. D'accord? Tout ça, on le dit parce que les savants, ils le disent. Mais sinon, vous verrez, c'est presque impossible. C'est presque impossible. Non. Tout cela a été rapporté du prophète, alayhi salatu wassalam. فإن لم يتيسر له ذلك فإنه يستقبل الحجر يعني يتوجه إلى الحجر ببدنه ويرفع يده يشير بيده ويكبر. Si tout cela n'est pas facilité, alors il lève la main en direction de la pierre noire, d'accord, comme si on salue la pierre noire, en disant Allahu Akbar ou bien Bismillahi Allahu Akbar comme on l'a dit, d'accord. Et le fait d'embrasser la pierre noire, etc., il y a une grande récompense. Car c'est rapporté, ورد أن هذا الحجر المبارك يأتي يوم القيامة وله عينان تبصران ولسان ينطق ويشهد لمن استلمه بخير. Donc c'est rapporté de manière authentique que la pierre noire, le jour de la résurrection, elle aura deux yeux et une langue. Elle témoignera en faveur de ceux qui l'ont embrassé ou bien touché. D'accord? Mais ça, c'est quand c'est facilité. Encore une fois, si c'est pour faire un mal, un bien pour un mal, non. D'accord? Ou bien faire un mal pour un bien, afwan, non. Le fait de bousculer les autres, ou bien, etc., ou bien le fait d'en arriver à carrément mal parler, etc., pour en arriver à la, pour arriver à la pierre noire, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine, non. Donc, comme il a été rapporté de Omar, radiallahu anhu, qu'il a dit, « Amma inni a'lamu annaka hajarun, la tadur wa la tanfa. » لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. Donc Omar رضي الله عنه a dit, certes je sais que tu n'es qu'une pierre, certes je sais que tu n'es qu'une pierre, tu ne peux faire ni de bien ni de mal, et si je n'avais vu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم t'embrasser, je ne t'aurais jamais embrassé عليه الصلاة والسلام. نعم. Ensuite, le pèlerin, donc là, il laisse la Kaaba à sa gauche et il commence le tawaf. Il commence le tawaf. Il n'a pas été rapporté, je crois, le fait de dire quelque chose de précis ou bien une invocation précise durant le tawaf. Donc, tout ce qu'on peut trouver dans certains livres, le tour numéro 1, faut dire ça, le tour numéro 2, faut dire ça, le tour numéro 3, faut dire ça, tout ça, c'est pas légiféré. On dit ce qu'on veut comme invocation. Celui qui connaît des invocations qui sont rapportées du prophète ou bien qui peut les lire, tant mieux. Celui qui ne connaît pas, qu'il invoque par ce qu'il veut, qu'il demande ce qu'il veut à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne sait pas le faire en arabe, qu'il le demande avec sa langue. Il n'y a aucun problème du moment qu'il ne sait pas le faire en arabe. D'accord? Naam. Et il est recommandé aussi d'évoquer Allah, la ilaha, du fait de dire la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar. Kadhalik, il est recommandé selon l'avis le plus juste des savants. Tout ça, je suis en train de traduire directement ce que le cheikh a dit. Pour gagner du temps, des fois je lis en arabe et je traduis, des fois je traduis. Donc le fait de réciter le Coran, c'est légiféré aussi durant le tawaf. Naam. حتى إذا جاء إلى الركن اليماني إذا تيسر أن يستلم أو استلم بيمينه بأن يمسحه بيمينه للاستلام واستلام الركن اليماني يحط الخطايا حطا. Donc il continue à évoquer et à réciter le Coran jusqu'à arriver à l'angle yéménite. L'angle yéménite, c'est l'angle qui est juste avant l'angle de la pierre noire. On l'appelle comme ça car il est en direction du Yémen, en direction du sud. D'accord? Donc une fois arrivé à l'angle yéménite, celui qui peut toucher l'angle yéménite avec sa main droite et caresser l'angle yéménite, qu'il le fasse. Celui qui peut pas, parce qu'il y a trop de monde, ça se bouscule, etc., qu'il s'éloigne. D'accord? Et ça a été rapporté que le fait de toucher l'angle yéménite efface énormément les péchés. Pour celui qui peut le faire avec facilité, sans bousculer les autres, bien évidemment. Si la personne ne peut pas toucher l'angle yéménite, on ne fait rien. Il n'y a pas de signe à faire en direction de l'angle yéménite, ni de choses à dire en direction de l'angle yéménite. Et ça, on le précise, et le cheikh ici le précise, car on voit beaucoup de personnes faire ça. Faire un signe en direction de l'angle yéménite, ou bien dire Allahu Akbar, ou bien Bismillah, etc. Tout ça, c'est pas légiféré. On ne dit rien. Et on ne fait pas de signe. La seule chose qui est légiférée quand on arrive à l'angle yéménite, c'est le fait de le toucher pour celui qui peut. D'accord? Une fois qu'on a fait cela, on commence. Et là, c'est la seule invocation qui est légiférée durant le tawaf. On dit « Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana Ce qui veut dire, ô Allah, ô Seigneur, accorde-nous une bonne part ici-bas, une bonne part dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment de l'enfer. On répète cette invocation jusqu'à arriver au coin suivant qui est la pierre noire. Donc c'est la seule invocation qui est légiférée, que tout le monde doit dire à ce moment-là. Entre l'angle yéménite et la pierre noire, on répète cette invocation. D'accord ? Et une fois qu'on arrive à la pierre noire, d'accord, on fait exactement ce qu'on a fait au début. On embrasse si on peut, si on peut pas, on touche avec sa main, on embrasse sa main. Si on peut pas, on le touche avec quelque chose et on embrasse cette chose. Si on peut pas, on fait un signe de la main droite vers la pierre noire et on dit Allahu Akbar ou bien Bismillah, Allahu Akbar. D'accord ? Et on fait ça à chaque tour. Là, on vient de détailler un tour complet. On fait la même chose pour les 7 tours. Une fois qu'on a fini le tawaf, une fois qu'on arrive à la pierre noire, à la fin du 7e, le cheikh nous dit ici, Al-aqrabu indi idhantaha min ash-shawt as-sabi' wallahu a'lam annahu la yukabbir wa yara ba'd ahli al-'ilm annahu yukabbir li'annahu ata al-hajar al-aswad. Donc le cheikh dit que la vie le plus juste pour lui, c'est qu'une fois qu'on a fini, qu'on arrive à la pierre noire, à la fin du 7e, on ne fait pas de signe, on ne dit pas Allahu Akbar cette fois-ci. On quitte le tawaf directement. Et certains savants sont d'avis qu'on dit Allahu Akbar comme pour les autres. Donc ça sera la 8e fois, parce que ce sera la fin du 7e. Ça fera la 8e fois. Donc ils sont d'avis qu'on doit le faire car on est passé devant la pierre noire. Ala kulli hal, que vous fassiez comme ça ou comme ça, il n'y a pas de problème, inshallah. C'est une mas'ala ijtihadiyya. On n'a pas de preuves claires sur le sujet. D'accord ? Mais le cheikh Sulaiman Wafaqahullah, ici, il est d'avis qu'il n'est pas légiféré de le faire. Wallahu a'lam. Ensuite, après cela, on se dirige vers Maqam Ibrahim. On se dirige vers le Maqam d'Ibrahim. D'accord ? La station d'Ibrahim, c'est le truc jaune là, que vous voyez devant la porte de la Kaaba. Bien sûr, s'il y a trop de monde, on se dirige vers le Maqam, mais on s'éloigne. En se dirigeant vers le maqam, vers derrière le maqam, on récite le verset Wattakhidhu, ou bien dans une riwaya, Wattakhadhu min maqam Ibrahim à Musalla. Une fois qu'on a dit ça, on doit prier 2 unités de prière derrière le maqam Ibrahim. Encore une fois, si cela vous est facilité. Car vous verrez, en général, lors de la période du Hajj, il y a tellement de monde qu'on ne vous laissera pas. On vous dirigera de force loin de maqam Ibrahim. Il n'y a pas de problème. Vous avez l'intention de prier derrière Maqam Ibrahim, si vous pouvez, vous avez la récompense comme si vous l'aviez fait. D'accord ? Mais il y a tellement de monde que ça devient difficile. Vous imaginez s'il laisserait tout le monde faire 2 rak'at derrière Maqam Ibrahim ? Ça serait une catastrophe, parce que les gens sont en train de faire tawaf. Donc c'est pour cela qu'ils éloignent les pèlerins qui veulent prier loin du tawaf. D'accord ? Et c'est Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, il disait dans son livre, pour exagérer, mais vraiment pour montrer qu'il ne faut pas se bousculer, se bagarrer, ou bien vraiment tout faire pour vraiment faire ces 2 rak'at derrière Maqam Ibrahim, de sorte à mettre dans la gêne les autres et se mettre dans la gêne soi-même. À tel point que le Cheikh a dit, le fait que vous priez 2 rak'at n'importe où à Mecca, il n'a pas dit Masjid al-Haram, il a dit Mecca, vraiment pour exagérer. C'est-à-dire que le Cheikh nous dit, le Cheikh Al-Bain, rahmatullah alayhi, il a dit, le fait que tu sortes de la mosquée, que tu vas dans ton hôtel, tu pries les 2 rak'at et que tu reviennes pour continuer ta omra, c'est juste. Ça, c'est pour exagérer, pour vous dire que le fait que vous priez n'importe où dans la mosquée, c'est juste, il n'y a pas de problème. Le mieux, c'est derrière le maqam Ibrahim, mais tant que ce n'est pas possible et que c'est difficile, il n'y a pas de problème. Quand ça devient impossible ou difficile, le mieux, c'est de prier ailleurs. Le mieux, c'est de prier ailleurs pour ne pas mettre dans la gêne les autres. D'accord ? Donc, on prie 2 rak'at en récitant dans la première la Fatiha avec Qul ya ayyuhal kafirun, et dans la deuxième la Fatiha avec Qul huwallahu ahad. Thumma ba'da dhalika yadhhab ila Zamzam. Après cela, la sunna, c'est de se diriger vers Zamzam n'importe où dans la mosquée où il y a de l'eau Zamzam. Il y en a un peu partout, il y a des robinets, etc. On se dirige vers Zamzam et il est recommandé ici de boire Zamzam, d'en mettre sur sa tête, etc. Car c'est ce qui a été rapporté du Prophète sallam. D'accord ? Et le Prophète sallam a dit ma au Zamzam lima shuriba lah. L'eau Zamzam, l'eau Zamzam, la personne qui boit l'eau Zamzam, elle aura la chose avec l'intention pour laquelle elle boit. Si elle boit dans l'intention de guérir, elle sera guérie bi'idhnillah, par la permission d'Allah ta'ala, etc. Na'am. Donc, comme c'est rapporté que le fait de boire Zamzam et d'invoquer en buvant ou bien en ayant une intention précise, Inch'Allah ta'ala, on espère être qu'Allah réponde à cela. Bi'idhnillahi ta'ala. Na'am. Une fois que la personne elle aura fait ça, qu'elle aura bu Zamzam, qu'elle aura fait son tawaf, pris ses deux rak'at, bu Zamzam, il est recommandé qu'elle aille encore une fois embrasser la pierre noire. Bien sûr, en général, c'est impossible. Mais on le dit parce que les savants, ils le disent. Et notre but, c'est de détailler le hajj et la umrah en détail, inshallah ta'ala. Après, si on ne peut pas, il n'y a aucun problème. D'accord ? Il n'y a aucun problème. On se dirige. عفوا الشيخ يجي هنا جمال لي ثم يسن ان يعود الى الحجر الاسود وان يستلمه لم ياتي التقبيل il n'est pas rapporté qu'on doit l'embrasser mais juste la toucher ou bien faire un signe de la main et ensuite repartir. D'accord, en général on vous laissera pas, une fois que vous quittez le tawaf on vous laisse pas faire demi-tour. D'accord, donc si c'est possible tant mieux, c'est pas possible, il y a aucun problème, dirigez-vous directement vers as-safa, vers as-safa, car ce qui manque c'est le fait de faire safa et Marwa, fait de faire Safa et le Marwa. Donc on va juste détailler Safa et le Marwa et on va s'arrêter là, Inch'Allah Ta'ala. Donc à la fois on a été plus long que ce qui était prévu, mais le but c'est qu'on réussisse à finir avant le Hajj. D'accord ? Ensuite il se dirige vers Safa. Une fois qu'il est proche de Safa, il récite le verset Inna Safa wal Marwa min sha'a'irillah jusqu'à la fin du verset. D'accord, inna as-safa wal marwata min sha'a'irillah jusqu'à la fin du verset. Hatta idha raqa as-safa nadhara ila al-bayt, une fois arrivé à Safa, on se dirige vers la Qibla. D'accord. Donc selon le monde, on vous dirigera vers le rez-de-chaussée, le premier étage, le deuxième étage, peu importe. Vous suivez les gardes de la mosquée qui vous orientent, inshallah ta'ala. Une fois arrivé à Safa, et qu'on monte sur as-safa où il y a une petite montée quand on est au rez-de-chaussée. Par contre, si on est au premier ou au deuxième, il n'y a pas de montée. On se dirige vers la Qibla. S'il est possible de voir la Kaaba, et c'est possible vraiment à des endroits très minimes, au rez-de-chaussée, et des fois même ils ferment. Donc, à la Kulihal, si c'est possible de voir la Kaaba, on essaye de trouver un endroit où on peut voir la Kaaba. Sinon, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de se mettre en direction de la Qibla. D'accord ? Donc, on se met en direction de la Qibla. Et là, on lève les mains pour invoquer. D'accord ? Et là, le cheikh dit « وَلَمْ يُشْرَ عَنَّ الْإِنسَانَ يُشِيرُ إِلَى الْبَيْتِ عِنْدَ بِدَيَةِ السَّعَى » Il n'est pas légiféré de faire un signe en direction de Safa comme font certaines personnes, de redire « Allahu Akbar » comme la pierre noire. Tout ça, ce n'est pas légiféré. Tout ça, c'est des innovations. D'accord ? Il n'y a rien de rapporté par rapport à cela. Ce qui est légiféré, c'est de lever les mains et d'invoquer. Donc là, on dit quoi ? C'est rapporté qu'on dit الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Ça c'est dans les livres de toute façon, c'est rapporté dans les livres, etc. J'essaierai inchallah de mettre les invocations légiférées. Il n'y en a pas beaucoup, on en a vu une dans le tawaf, là on en voit une autre, c'est pendant Sa'i. Ça j'essaierai inchallah de les mettre en image et de les partager, bi'idhnillah ta'ala. Mais sinon vous pouvez les trouver facilement dans n'importe quel livre d'invocation, inchallah ta'ala. Donc on dit ce dhikr que je viens de dire, ensuite on lève les mains et on invoque Allah Azza wa Jal tawilan, longuement. Ensuite on redit la même chose, ensuite on invoque, c'est-à-dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, etc. jusqu'à la fin. Ensuite on invoque encore une fois. Ensuite, on redit la même chose. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, etc. jusqu'à la fin. Et ensuite, on invoque encore longuement. Donc, ça fait trois fois. Ça fait trois fois. Je vous précise une chose. Pendant Ramadan, il y avait tellement de monde qu'ils ne nous laissaient pas faire ça. C'est-à-dire qu'une fois arrivé Safa, ils ne laissaient personne s'arrêter, surtout les groupes. Les groupes, ils ne laissent personne s'arrêter. Si on ne vous laisse pas vous arrêter, la yukallifullah nafsin la wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait très bien que vous vouliez le faire. C'est recommandé, ce n'est pas une obligation. Il sait très bien que vous vouliez le faire, mais on ne vous a pas laissé. Pour la maslaha, lil maslahatil amma, pour le bien de tous, car il y a tellement de monde que c'est impossible. Si vous arrêtez, ça va bloquer, ça va se bousculer, ça peut être très dangereux. Si on vous dit qu'il ne faut pas s'arrêter ou qu'on vous force à partir, là, vous ne pouvez rien faire d'autre. vous aviez l'intention de le faire, c'est comme si vous l'aviez fait bi'idhnillah ta'ala. C'est comme si vous l'aviez fait bi'idhnillah ta'ala. D'accord ? الشيخ يجي الصفة الثانية يقول الله أكبر واحدة. C'est rapporté aussi du prophète Hassan qui disait Allah Akbar une seule fois. C'est-à-dire Allahu Akbar, La ilaha illallah wahda wa la sharika la, al-mulku wal hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli shay'in qadir, La ilaha illa wahda la sharika la, anjaza wa'da wa nasara 'abda wa zama ahzaba wahda. La même chose que le premier qu'on a cité, sauf que c'est Allah Akbar une fois au lieu de trois fois. Les deux sont autorisés, ça ou ça. Le troisième type qui est rapporté, le cheikh il dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah wahda wa la sharika la, al-mulku wal hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli shay'in qadir. لا إله إلا الله وحده ولا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وزمن أحزابه وحده ويدعو طويلا ثم يقول بدون تكبير لا إله إلا الله وحده ولا شريك له etc. Donc le troisième dhikr qui est rapporté c'est le même que le premier sauf que une fois qu'il invoque et qu'il répète ce dhikr là cette évocation là il ne répète pas le takbir il dit directement لا إله إلا الله وحده ولا شريك له etc. Alors qu'on est le cheikh ici a cité trois types de dhikr qui se ressemblent énormément, qui sont rapportés du prophète alayhi salatu wassalam. Quatrième façon qui est rapportée, le fait de dire Allahu Akbar trois fois et le fait de faire le tahlil trois fois. Et le fait d'invoquer après la première fois et la deuxième fois et de ne pas invoquer après la troisième fois. On a dit qu'on fait le dhikr qu'on a cité, puis on invoque, puis on répète le dhikr qu'on a cité, puis on invoque, puis on répète le dhikr qu'on a cité, puis qu'on invoque encore. La quatrième façon qui a été rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'on n'invoque pas après la troisième. On invoque que après la première et la deuxième. D'accord? Donc tout ça c'est rapporté. Donc qu'on fasse comme ça ou comme ça ou comme ça, il n'y a aucun problème. Et le fait qu'on fasse une fois comme ça ou une fois comme ça et une fois comme ça qu'on change, il n'y a aucun problème. C'est même encore mieux pour celui qui peut, pour qu'il fasse tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Ensuite on descend de Safa et on se dirige vers Al-Marwa. Entre Safa et Al-Marwa, à un moment, vous verrez des lumières vertes. Pour les hommes, il est légiféré d'accélérer le pas, de courir, entre guillemets, doucement, entre ces lumières vertes, d'accélérer entre ces lumières vertes. On avance jusqu'à Al-Marwa. Une fois qu'on arrive à Al-Marwa, on fait exactement la même chose qu'on a fait à Safa. On fait exactement la même chose qu'on a fait à Safa. Et ça fera, on aura fait une fois. Ensuite, on retourne à Safa, ça fait deux. C'est pas sept allers-retours. Safa Marwa ça fait 1, Marwa Safa ça fait 2, Safa Marwa ça fait 3, Marwa Safa ça fait 4. Et le 7e on termine à Marwa. Tout ce qu'on fait à Safa on le fait sur Al Marwa. D'accord ? Donc on fait les 7 trajets. Entre Safa et Al Marwa il n'y a rien de spécial à dire. On dit ce qu'on veut. Le Cheikh il nous dit ici si la personne a dit In qala Rabbi ghfir warham innaka antal a'azzul akram, cette invocation Rabbi ghfir warham innaka antal a'azzul akram, elle a été rapportée de certains compagnons comme Ibn Mas'ud radiallahu an et de Ibn Omar aussi. Il n'y a pas de mal. Et c'est une bonne chose. Et le fait qu'il la délaisse aussi, c'est une bonne chose. C'est pas rapporté du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est rapporté de certains compagnons. Sinon, on dit les invocations qu'on veut, on évoque Allah subhanahu wa ta'ala, on lit le Coran comme dans le tawaf. D'accord ? Et on fait sur Safa et Marwa la même chose à chaque fois. Comme on l'a dit au début. فَإِذَا أَتَمَّ الْحَاجُّ السَّعْيَ Une fois que le sa'y est terminé. D'accord ? Donc, est-ce que sur le dernier, c'est-à-dire quand j'arrive à la fin du septième trajet, que j'arrive à Al-Marwa, est-ce que je fais ce que je faisais les autres fois ? Cheikh Sulaiman, son avis, c'est qu'on le refait, oui. Ça veut dire qu'on le fait 8 fois en tout. Et certains savants sont d'avis qu'on ne le fait pas et on quitte le sa'y directement. Donc, que la personne fasse ça ou ça, les deux sont bonnes, inshallah ta'ala, car il n'y a pas de texte sur ça. C'est un ijtihad des savants. D'accord ? C'est un ijtihad des savants dans la mas'ala. D'accord ? Donc, une fois que le sa'i est terminé, si le hajj est mutamatti', c'est-à-dire qu'il a eu l'intention de faire la umrah, il a dit le bek Allahumma umrah seulement, il va se désacraliser pour rentrer en état de sacralisation le 8e jour de Dhul Hijjah pour faire le hajj. Donc, le mutamatti', là, il va aller se couper les cheveux. Pour l'homme, le mieux, c'est de se raser la tête. Car le prophète a invoqué trois fois la miséricorde en faveur de celui qui se rase trois fois. Et en faveur de celui qui se coupe seulement les cheveux une seule fois. Sauf si la personne voit qu'il ne reste que un ou deux jours ou trois jours avant qu'elle commence son hajj et qu'elle a peur que ses cheveux ne poussent pas ce jour-là, elle coupe ses cheveux seulement pour raser plus tard. Parce que le mutamatti', il va raser deux fois. À la fin de sa umrah et le jour de l'Eid, le dixième jour de l'Hijja, comme on le verra inshallah ta'ala. Donc il coupe ses cheveux seulement, car il va raser la deuxième fois par exemple. Certains savants préfèrent qu'il coupe ses cheveux pour qu'il puisse raser le deuxième jour. Et s'il rase les deux fois aussi, il n'y a pas de problème. Okay? Et la femme, elle réunit ses cheveux et elle coupe la taille d'une phalange seulement. La taille d'une phalange seulement. En coupant les cheveux, le mutamatti' est sorti de l'état de sacralisation. Tout ce qui lui était interdit en état de sacralisation lui redevient licite. Par contre, al-qarin wal-mufrid, il n'a pas le droit de toucher à ses cheveux encore parce qu'il est encore en état de sacralisation. Et là, quand il a fini le sa'i, il recommence la talbiya. Parce que le mufrid et le qarin sont encore en état de sacralisation. Ils ne se désacralisent pas à la fin du sa'i. D'accord ? Donc voilà, en ce qui concerne la première partie du hajj. Donc là, c'était la umrah. Dans le hajj, on a détaillé la différence entre le mutamatti', le mufrid et le qarin. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on se dit à dimanche prochain pour qu'on commence à détailler les œuvres et les actes du hajj à partir du 8e jour de Dhul-Hijja. فنكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.